Voilà, pour ce qui est du culte, Daniel, on le sent bien dans cette ambiance festive, les Malgaches sont fiers de leurs racines et cette communauté cultive leurs traditions.
En effet, Fabien, nous ne pouvions pas inviter la communauté malgache sans parler d'une vieille tradition, le kabari, un art oratoire, une tradition ancestrale.
Alors, peut-on dire que la tradition orale caractérise la culture malgache, Daniel ?
Oui, plutôt. Dans les villages, la tradition orale et l'éloquence ont une place capitale. Les Malgaches adorent ces joutes oratoires qui ont lieu en plein air et en public et durent des heures. À cette occasion, sont récités pour le plus grand plaisir de l'assistance des proverbes, des vieux dictons, dont nous aurons une très belle illustration dans quelques minutes. Finalement, les Malgaches établis en Suisse pratiquent ces joutes oratoires. Certainement. Il existe des écoles dans toute l'Europe et en Suisse, et nous avons d'ailleurs le plaisir de recevoir, pour en parler ce soir, le docteur Jean Andrea Manana Vivo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association des orateurs.
Vice-président.
Le vice-président des orateurs malgaches de Suisse, dont le siège est la FIMPIMA à Madagascar. Jean, pourrait-on commencer par une mise en bouche du kabari ? On va avoir une illustration vivante donc, de cette pratique traditionnelle.
Quand même qu'on le voit in situ, qu'est-ce que c'est concrètement ?
Mais avant de parler in situ, comme vous dites Fabien, Jean va nous parler du tsini. C'est une sorte de blâme lorsque l'on a fait du mal ou qu'on a dit des choses qu'il ne fallait pas. À vous Jean.
Cher Daniel, cher Fabien et chers auditeurs ou auditrices qui ont la gentillesse d'écouter cette émission sur le kabari malgache. Que vous soyez malgache, suisse ou originaire de cultures diverses, venant des huit points de l'horizon, bonjour. Si je suis dans ce studio, devant ce micro, ce n'est pas de mon chef, ni de mon initiative personnelle, mais je suis invité, et cette mission, je l'accepte avec humilité et joie. Je ne vais pas la jeter dans l'eau, ni la laisser fracasser sur le rocher. Mais avant toute chose, je vous prie de bien vouloir m'excuser que cette prise de parole ne soit pas pour moi une occasion de tsini. En effet, parler avec le tsin, c'est comme l'édenté qui mâche et suce la canne à sucre. Il compte se rafraîchir le fond de la gorge, mais malheureusement, c'est la gencive qui s'abîme. Par ailleurs, autant la montagne est le lieu privilégié du brouillard et la vallée du lieu privilégié des moustiques, autant la parole est le lieu privilégié du tsin. Je conjure le tsin, pas seulement parce que je ne sais pas parler, mais parmi les auditeurs, il y a des gens honorables, des personnes âgées, des adultes, des jeunes, de grands talents, de grandes capacités qui nous écoutent. Ce sont les rochers que la terre a sortis de son sein pour les élever au-dessus d'elle. Ce sont les bosses en saillie au-dessus de la masse de chair du zébu. Ce sont la brume que l'eau a élevée au-dessus de la surface d'elle. Je vais parler devant eux, je vais parler devant des femmes respectables qui nous écoutent. Elles sont la parure de la maison quand elles sont assises, ornement de la route quand elles marchent, nénuphars, joyeux de le temps, parure des rochers, source de la vie et de la nation. J'ai donc à parler devant vous tous et je conjure les tsines et je m'excuse cette fois. Aucune montagne n'est plus haute que le Mont Blanc ou la Carte. Aucune vallée n'est plus profonde que la vallée de l'Impe. Aucun animal n'est plus à craindre que le caïman. Aucune maladie n'est plus terrible que la lèpre. Et aucun danger n'est plus grand que le tsine. En effet, tous ceux qui entreprennent et qui sont sous le poids de tsine est voué à l'échec. Il ne peut ni économiser, ni fructifier, ni gagner. Enfant, il meurt en bas âge, il meurt dans la fleur de l'âge. Vieux, il est plongé dans la misère la plus noire et ses descendants ne connaissent que l'indigence. Bien plus, le tsine est comme la gelée blanche. On ne le sent que lorsqu'elle vous engourdit la peau. Le tsine est comme le vent violent. On n'en voit pas la forme. C'est seulement lorsque la finit de vous abattre qu'étonné, vous la sentez. Et là, j'ajoute un copyright. Le tsine est comme le verglas. Lorsque vous êtes seulement dans le décor, que vous vous en rendez compte. Que faut-il faire du tsine ? Le jeter dans le fleuve, l'enterrer au fin fond de la mer, pour qu'il ne réapparaisse pas, mais il va donner des tremblements de terre qui ressortent comme un volcan ou le tsunami. La meilleure solution, c'est de prévenir le tsine par la parole, et puis être juste et faire du bien. Et lorsque le tsine est conjuré, le chemin est libre, on se sent plus léger pour parler.
Merci pour ce beau kabari, très poétique. Mais quel en est le message ?
Le message, donc ce que je vais te dire, c'est généralement l'introduction. Il y a tout un rituel malgache de l'orateur malgache. C'est tout un rituel pour conjurer les tsines, avant d'entrer dans le vif du sujet. Il y a une deuxième étape même, que je n'ai pas eu le temps de dire tout à l'heure. Après avoir conjuré les tsines, on s'adresse à l'auditoire, mais surtout à porter la grâce et la louange, non seulement à Dieu créateur, mais aussi à tous les responsables administratifs et politiques et à toute la famille, à tous ceux qui sont présents. Donc, et ensuite, lorsqu'on a terminé tout ça, qu'on peut entrer dans le vif du sujet. Donc, c'est tout un rituel. Ouais.
Au-delà du rituel, quelle est la fonction du cabaret même dans la société malgache ?
Alors, la société malgache, depuis la nuit des temps, les Malgaches parlent. Et ils ne sont pas les seuls à parler. Toutes les cultures du monde parlent, premièrement. Deuxièmement, seulement depuis le 15e siècle qu'on a commencé à voir des informations documentées sur les archives sur le cabaret. La fonction, c'est quoi ? Le cabaret, c'est l'expression d'une mentalité. C'est l'expression d'un moyen de communication au sein de la société. Et faire le cabaret, c'est aussi une manière, en quelque sorte, de rapprocher le groupe, renforcer le lien pour pouvoir affronter quoi qu'il arrive dans la vie.
Mais ce qui veut dire qu'on le cabaret permet de créer des liens dans la société malgache. Mais ce qu'il faut bien expliquer, c'est que ça se passe en public et ça dure des heures et des heures. Et comment est-ce que ça peut cimenter une collectivité ?
Alors, il faut savoir que le malgache est d'abord, premièrement, un être très social. Et dans cet être très social, il y a des liens qui relient les Malgaches. Alors, le lien qui relie, c'est d'abord ce qu'on appelle le fiavanan, c'est-à-dire l'art d'être ensemble, c'est-à-dire renforcer le groupe, c'est-à-dire donner la place de chacun dans le groupe pour essayer de se protéger contre les agressions extérieures d'être dans ce lien, créer ce lien d'abord. Et le kabar, surtout lorsqu'on parle de tsine, permet d'abord d'écarter, comme s'il y a une sorte d'inquiétude permanente, chez le malgache, parce que lorsqu'on fait du mal, il y a toujours quelque chose en retour qui revient.
Mais est-ce que c'est lié au métissage qui existe à Madagascar, dans ce sens où, en fait, il y a eu plusieurs migrants qui se sont installés dans cette île et qui viennent de tous les horizons ? Et est-ce que, finalement, on a besoin de faire bloc maintenant face... Il y a eu la colonisation également, mais face à d'éventuels agresseurs. Comment s'explique, en fait, ce besoin de ciment ?
Le besoin de ciment, parce que le malgache est d'abord un être social. Un être social, d'abord. Et ce ciment est nécessaire pour, non seulement pour renforcer les liens, pour se défendre contre d'éventuelles agressions, mais c'est surtout c'est un ciment où le lien d'amitié et le lien de fraternité est très, très fort.
Mais avant de parler de ce lien d'amitié, quand le cabaret est né, il y a une origine politique, on peut dire. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, finalement, sur la genèse de cette pratique ?
Voilà. Alors, il faut savoir que les Malgaches parlent depuis toujours, premièrement.
Deuxième, c'est un peuple très bavard.
Bavard, très, oui, mais la parole fait partie de la culture. Deuxièmement, c'est seulement... relativement tardivement, vers le 15e siècle, qu'on commence à avoir une documentation sur le cabaret, où tel ou tel roi s'adressait au peuple. D'abord, c'est considéré d'abord comme un lien public entre les dirigeants et le peuple. Et dans un premier temps, il y a le roi qui dit ce qu'il avait à transmettre au peuple, et il réunit la population, et c'est un grand discours, comme dans certains agora à Rome, ou quelque chose. Donc c'est un grand discours. Puis après, non seulement ça n'est pas resté que politique dans le cadre de la vie de la cité, mais c'est entré dans la vie familiale, les relations entre les individus humaines. Et toutes les circonstances de la vie sont sujets à des cabarets. le mariage, le décès, tous les événements, il y a des kabars qui sont adaptés en fonction de cela.
Mais alors qu'on comprenne bien, comment ça se passe ? On se trouve dans une salle avec l'orateur au milieu et le public autour qui écoute ? Ou est-ce que c'est plus comme un débat ?
C'est pas du tout un débat. Je veux donner un exemple où dans le cadre du mariage, par exemple,
oui, bon
ou
exemple.
Une demande de mariage. Voilà. Donc, il y a la famille de la mariée qui est à la maison et la famille du marié est à l'extérieur. Ensuite, ils entrent ensemble lorsqu'on les fait entrer et ensuite, un porte-parole va commencer le kabar. Il dit bon, d'abord toute une grande litanie de s'excuser, etc. Parler du tzin, essayer de dévier les signes. Ensuite seulement qu'on entre dans le vif du sujet, pour le demande en mariage, etc., etc. Voilà.
Et comment est-ce qu'on devient orateur ? Est-ce qu'il y a une formation ?
Alors, on devient orateur. Ça s'apprend. Premièrement, ça s'apprend. C'est une technique qui s'apprend.
Est-ce qu'il y a des cours ?
Alors, donc actuellement,
en Europe,
oui, il y a donc une association des picabars, des gens qui pratiquent du secours, donc il existe aussi en Suisse et en France voisine, et on donne des cours. Alors justement, au début novembre, il y aura une formation pour les Malgaches qui sont intéressés pour apprendre le maniement de la langue et de toute la tradition, parce que c'est quelque chose de très, très pointu, le discours malgache, du malgache, et a des particularités énormes. C'est pas un discours, on va dire, comme on voit en Europe, chez les Grecs.
On pourrait en parler des heures et des heures.
Des heures.
Mais qu'est-ce que ça symbolise pour la communauté malgache établie en Suisse ou en France de participer à ces joutes ? Est-ce que c'est garder un lien avec les traditions ? C'est une manière de pérenniser, en fait, certaines traditions malagasy.
Exactement. Voire même garder son identité malgache.
Exactement. Garder une certaine identité, une certaine manière de penser, une certaine logique, une certaine... qui se perd facilement lorsqu'on est à l'étranger.
Qui plus est loin de son pays.
Plus on est loin de son pays, et c'est une occasion de goûter les mots, les phrases. C'est un rituel.
Mais et là, on va goûter des paroles de Vaila, de Sylvestre Randafison. En deux mots, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce titre ?
Alors,
de Vaila.
Ah, le Vali. Oui, c'est le Vali, c'est un instrument traditionnel malgache avec une sorte de bambou et dont la mélodie, il y a cette douceur. On n'est pas dans le...
C'est pas de brutalité.
Pas de brutalité dans la douceur et qui, on va dire, qui traduisent un peu cette forme
cette
de mélancolie. Déjà, cette âme.
L'âme
malgache. Cette âme malgache, oui, voilà. Donc, je trouve que c'est...
Très poétique.
C'est très poétique.
Ouais. Alors, on va l'écouter. Merci beaucoup, Jean-Andrea Mananaivo, d'être venu nous en parler ce soir. Vous êtes vice-président de l'Association des orateurs malgaches de Suisse. Merci de venir nous parler de votre art orateur ce soir.
Merci.